VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, décès de l'organisateur des premières élections libres dans le pays depuis l'indépendance, l'abbé Apollinaire Malou-Malou. Des détails avec Anastasie Tudiesh.
Son évêque Melchisedec Sikouli l'a annoncé dans un communiqué transmis à l'AFP. L'abbé Malou-Malou est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Dallas, dans l'État du Texas, où il était soigné sans que soit précisée la maladie. Des besoins de soins qui l'ont tenu éloigné de la scène publique depuis sa démission le 10 octobre 2015. L'abbé dirigeait alors la Commission électorale indépendante, la CEI, devenue la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il avait été rappelé à la tête de l'organisation en 2013 contre la volonté de l'Église catholique alors qu'il était conseiller du président Joseph Kabila. Originaire du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'abbé Malou-Malou allait avoir 55 ans.
Au Burundi voisin, le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, une ONG locale, dénonce le trafic de filles vers les pays du Moyen-Orient, comme l'Oman et l'Arabie saoudite. Certaines autorités burundaises sont pointées du doigt dans le soutien et dans la complicité de ce trafic humain. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint le président du FOCODE Pacifique, Ninina Hazoué.
Nous avons mené une enquête à Tiankouzo, dans d'autres coins, à l'aéroport de Bujumbura, où nous avons fait une surveillance pendant 2 semaines, du 3 juin au 17 juin. Nous avons constaté, rien qu'en 2 semaines, un mouvement de 225 filles qui allaient à Oman et qui allaient en Arabie Saoudite, et qui chaque fois étaient accompagnées d'un trafiquant jusqu'au tarmac de l'aéroport, ce qui montrait que c'était pas normal, que le trafic était soutenu en haut lieu. Il y a des groupes, des sociétés de trafiquants, au moins 5 sociétés de trafiquants et qui sont soutenus, qui sont d'abord agréés, enregistrés à l'Agence pour la promotion des investissements API et qui sont soutenus par le reste des autorités burundaises. Nous avons trouvé que, par exemple, à RAPAF, ces sociétés reçoivent des passeports de ces filles qu'elles recrutent et de manière groupée et avec une facilité extraordinaire. À Muyinga, à Bubanza, à Tiankouzo, comme je disais au départ, et à Bubanza, c'est là où ça s'est aggravé, où, par exemple, des responsables du parti CNDD-FDD ont cru à des mensonges de salaire alléchant en Arabie Saoudite et ont fini par envoyer leurs propres filles et leurs épouses.
C'est à quel prix et quel traitement elles subissent?
Chaque femme qui arrive notamment à Oman coûte 500 riyals omanais, c'est environ 1000 euros. En francs burundais, c'est autour de 2 millions et demi.
Est-ce que c'est le parti qui organise ça ou ce sont des individus, membres du parti qui utilisent le label partie, mais pour des fins...
Il est possible que ce soit un commerce de quelques personnalités. Mais la manière dont les différentes autorités ou les différents organes de l'État se sont comportés dans cette affaire, il est difficile de distinguer ce qui serait fait par des autorités à titre personnel. Par exemple, un ministre qui a posé un acte en utilisant son titre de ministre, c'est la ministre de la Santé qui a autorisé l'hôpital Kira Hospital le 22 décembre à faire des examens médicaux au profit d'une des compagnies de trafiquants. Ça donne l'impression que c'était un trafic soutenu par le gouvernement, soutenu par le parti.
Est-ce que vous auriez touché les responsables de ce parti pour en savoir davantage?
Malheureusement, vous savez, le FOCODE est suspendu à Bujumbura.
Et quelles sont les conséquences sur les familles?
Des familles qui sont disloquées, des foyers disloqués. Il y a des femmes qui sont parties sans avertir leur mari. L'autre conséquence, c'est l'abandon des enfants. La nostalgie, les regrets, les situations d'abandon scolaire pour les jeunes filles.
Pacifique, Ninina Hazoué, dans l'un des pays de la région. Récemment, la police burundaise a reconnu l'implication de certaines sociétés, mais sans remettre en cause aucune autorité de l'État. Violence dans le nord-est du Kenya. 6 personnes ont été tuées par balle dans une attaque contre 2 bus par des hommes soupçonnés d'être des islamistes somaliens Shebab. Le point avec Bagassi Koura.
Selon le chef de la police kenyane, Joseph Bouane, cité par l'AFP, Deux personnes ont été blessées, mais il n'a pas précisé si les victimes de cette attaque menée près de la ville d'El Wak, à la frontière avec la Somalie, étaient des civils ou des policiers qui escortaient les deux bus. Le 20 juin, cinq policiers avaient été tués dans la même zone par des hommes soupçonnés d'être des Chebabs. Leur véhicule qui escortait un bus avait explosé après avoir apparemment été touché par le tir d'un lance-grenade. Les attaques des Chebabs affiliés à Al-Qaïda sont fréquentes dans le nord-est kenyan. En novembre 2014, les assaillants avaient intercepté un bus, séparé les passagers en fonction de leur religion et exécuté 28 non-musulmans.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, quatre réfugiés ivoiriens pro-Gbagbo, dont l'ex-ministre de la Défense Kader Bertin, sont maintenant de retour au pays natal. Ils sont arrivés jeudi soir à Abidjan en provenance du Ghana. Le retour des réfugiés ivoiriens est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara, plus de 5 ans après la fin de la crise post-électorale de 2010-2011 dans le pays. D'après l'UHCR, plus des 2/3 des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont maintenant rentrés chez eux. Il reste encore notamment 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée et 11 000 exilés pro-Gbagbo au Ghana voisin. Nigeria, les leaders de la région du Delta du Niger doivent aider à pacifier leur territoire. C'est ce qu'a fait savoir le président nigérien Muhammadu Buhari. Les précisions de Michel Joseph.
La multiplication des attaques par des militants réclamant une plus grande part des revenus pétroliers a fait chuter la production pétrolière nigériane à son niveau le plus bas des dernières années. Recevant jeudi à Abuja une délégation de leaders du Delta du Niger, le président Buhari les a appelés à œuvrer de concert avec les autres responsables pour pacifier la région. Le chef de l'État a demandé le plus de renseignements possibles sur la situation. Nous entendons reconstruire ce pays. Il a connu beaucoup de dommages, a-t-il déclaré, exhortant les leaders du Delta du Niger à dire à leurs administrés d'être patients. La semaine dernière, des sources au ministère nigérian du pétrole ont fait état de la signature d'un cessez-le-feu avec le groupe militant des Vengeurs du Delta, mais peu de temps après, ces derniers ont dit ne pas se souvenir d'avoir paraphé un tel accord. Dans l'espoir de favoriser le dialogue avec les militants, le gouvernement nigérian a annoncé début juin une réduction des opérations militaires dans le Delta du Niger.
Au Burkina Faso, le ministre de la Sécurité Simon Compaoré a fait le point sur l'avancée des enquêtes sur les attaques terroristes qui ont frappé Ouagadougou le 15 janvier dernier. À la suite des interpellations effectuées, 10 suspects sérieux sont entre les mains de la gendarmerie et 3 des 10 présentent un intérêt commun avec les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
Depuis les attaques terroristes qui ont frappé la capitale burkinabé en janvier dernier et qui ont fait une 30aine de morts, les Burkinabés se demandaient où en est l'enquête. Ce jeudi, le ministre de la Sécurité a levé un coin de voile. On écoute le ministre Simon Compaoré.
10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Oursi en août 2015.
Parmi les suspects sérieux arrêtés, il y a 3 femmes, a assuré le colonel Serge Alain Ouedraogo. Il est le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et coordonnateur des investigations.
Par rapport aux 3 dames, il y avait une voiture V8 qui a été beaucoup utilisée dans les opérations à la fois à Grand Bassam et à Capuchino, et qui servait à transporter les djihadistes mais également le matériel. Et le chauffeur principal donc, de ce véhicule a été identifié et c'est sa sœur qui a été interpellée au Burkina. Maintenant, les 2 femmes, il y a une qui est la femme d'un des grands suspects qui a été interpellé. Et dans l'interpellation, sa sœur était également présente. Donc, ça fait 3 femmes.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, BOA Afrique.
Burkina Faso, toujours, le parquet militaire va étendre la contre-expertise d'ADN aux 12 autres victimes dans l'affaire Thomas Sankara. Et ce, afin d'étoffer le dossier et éviter un vice de procédure. C'est ce qu'a annoncé Maître Béni Wende Sankara, l'avocat de la famille Sankara. Les corps présumés de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons tués avec lui ont été exhumés fin mai 2015 afin de déterminer avec certitude l'identité des victimes et lever le voile sur les circonstances de leur mort. Les résultats de ces tests ADN réalisés en France indiquaient que les ADN n'étaient pas détectables et ne permettaient pas d'identifier à coup sûr les victimes. La contre-expertise, dont les résultats pourraient être disponibles dans quelques semaines, sera réalisée à Santiago, en Espagne. Et pour terminer, l'Euro 2016 de football, le pays de Galles affronte ce soir la Belgique dans le deuxième quart de finale de la compétition à Lille. Plus d'infos sur notre site internet, voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.